Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
On vous a pas prévenu du carnage ?
Il est venu. Le mangeur.
Tous ces enfants se sont volatilisés dans des villes voisines.
Ils ont disparu quand ?
6 mois.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale polar thriller. Il y aura aussi un peu d'action où l'on causera, entre autres, de L'arme parfaite de Marc Di Salle, disponible chez BQHL, tout comme Vigilant Force de George Armitage, qui est disponible chez BQHL, et Les Envoûtés de John Schlesinger, qui est disponible également chez BQHL. On filera chez Artus Film pour vous causer de Un homme à genoux de Damiano Damiani. Et dans la seconde partie de notre émission, on échangera avec le producteur Fabrice Lambeau à l'occasion de la sortie de Le Mangeur d'âme de Julien Maury et Alexandre Bustillo chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jean Lesclose, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et François Villa pour leur aide sur cette émission. Je suis aujourd'hui accompagné de mes fidèles acolytes, l'ami Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, j'ai un peu peur parce qu'hier c'était la pleine lune pour tout vous dire, Thomas Roland dit le loup-garou picard, donc qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé, bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes. Mais ne vous inquiétez pas, je suis rassasié justement parce qu'il y a eu la pleine lune, c'était la nuit dernière.
Nous allons débuter cette émission avec un film un peu à part, hein, plutôt un film d'action d'ailleurs qui est sorti avec une salve de polar de thriller chez BQHL. C'est L'arme parfaite de Marc Di Salle. Qui raconte l'histoire de Jeff Sanders, hein, qui vient saluer Kim, un vieil ami de son père, avec lequel il a des liens très 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 forts, et qui interrompt brutalement la campagne d'intimidation menée par des membres de la mafia sud-coréenne, parce que Jeff Sanders, il fait la bagarre. Voilà. Enfin, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce film. Je vais laisser mon ami Damien, adepte du bourre-pif et de la taloche, vous évoquer son amour pour le Krav Maga. D'ailleurs, c'est pas le Krav Maga dans le film, c'est un autre art martial que je ne connaissais pas.
Est-ce que vous connaissez le Kempo ? Sans doute pas, vu que c'est un art martial assez particulier. En tout cas, c'est avec ça que Jeff Sanders va grandir. De base, en fait, quand il est enfant, on comprend que c'est un enfant un peu turbulent et son père policier est assez strict, va écouter les conseils de Monsieur Kim qui va lui dire « Mais le meilleur moyen pour que ton enfant se canalise, c'est qu'il aille faire des arts martiaux. » Ça va fonctionner. Il va apprendre à utiliser les arts martiaux, sauf que derrière, quand son petit frère va être attaqué, il va le défendre. Son père va pas trop apprécier et va un peu le chasser de la maison. On a donc affaire à un Jeff Sanders qui est un homme très solitaire, qui a des relations conflictuelles avec son frère Adam, qui est lui devenu policier comme son père. Et ce monsieur Kim va finir par être tué et va donc partir un peu se venger, et son frère légèrement pour enquêter. Donc, comme l'a dit Jérôme, on est plus sur un film d'arts martiaux, un film d'action, qu'un film d'enquête en lui-même. On va même retrouver certains éléments des films d'arts martiaux, notamment le training montage, avec une scène qui est très cool au tout début quand il apprend le kempo, qui est la meilleure scène du film, qui est la scène où on le voit changer de ceinture et monter au fur et à mesure dans l'école. C'est un film qui va avoir dans son sein des scènes musicales, parce qu'il faut des scènes musicales dans les films de cette époque-là. Beaucoup de clichés qui sont assez drôles à voir, notamment le père policier mis en avant comme un père protecteur, mais qui au final est juste toxique au point de détruire un tout petit peu sa famille. Et le truc qui m'a fait tilter assez vite, c'est le héros en fait, qui même si on le présente comme quelqu'un qui maîtrise le kempo, il n'est pas invulnérable. C'est-à-dire que très souvent, il va se faire péter la gueule au tout début des combats, et finalement... c'est sa résistance qui va permettre de gagner, et notamment une scène que je trouve assez particulière où il rentre dans une salle d'entraînement, il voit un gars à qui il veut demander des informations et le gars dit ok, on va se battre, si tu gagnes je te donne les informations, et le héros lui répond non, je vais pas me battre seulement contre toi, je vais me battre contre toi et les deux mecs qui sont derrière. Et du coup le combat commence avec juste les deux gars derrière qui regardent, le héros qui affronte en combat celui qui l'a provoqué, il commence à se faire péter la gueule, et à ce moment là je me dis mais si tu ne peux pas gagner contre un seul, pourquoi t'en as provoqué trois en tout? Alors vous inquiétez pas, il finit par revenir, mais comme très souvent dans ce film, il va d'abord se faire tabasser avant de pouvoir réussir à vaincre. En tout cas, c'est un film sympathique, c'est un film de dimanche après-midi. Vous attendez pas à être plongé dans une enquête rancoblesse, ni à avoir des combats à couper le souffle. C'est vraiment quelque chose qui est très tranquille. Donc si vous voulez un petit moment bien sympathique... Matez-vous L'âme parfaite de Marc Dilassalle, disponible chez BQHL. It was a typical American town until they found they were sitting on $500 million worth of oil. They called it God's country until all hell broke loose. Then it was time for vigilante force. Je vais rester chez BQHL pour un autre film, un film de 76. Donc on fait un petit bond en arrière, là ce coup-ci on n'est pas en 90 avec L'arme parfaite, et un film qui s'appelle Vigilante Force, mais qui avait un titre français en fait, dans lequel moi je l'avais vu il y a longtemps, qui s'appelait Milice Privée. Et c'est un film qui présente différents aspects propres à la série B américaine. D'abord, elle est... C'est un film produit par Gene Corman, le frère de Roger Corman, bien évidemment, qui est réalisé par un des hommes à tout faire vraiment de l'écurie Corman, c'est-à-dire George Armitage. Alors George Armitage, avec la Mythomac qui est en studio, nous on connaît bien parce qu'il a fait Hitman, qui est un remake du Get Carter de Michael Giesse, mais un remake Blaxploitation avec la belle Pam Grier, dont nous sommes très fans. Et donc le film d'Armitage, on connaît, qui est un réalisateur assez efficace d'ailleurs, Armitage, il a fait d'autres films comme Miami Blues par exemple, tout ça, et qui sont toujours des films assez efficaces, assez bien mis en scène, assez âpres, plutôt intéressants. Et là, il a un casting pas inintéressant non plus, parce qu'il a un casting d'ailleurs assez étonnant, qui joue dans des petites séries B comme ça, puisque c'est des acteurs qui sont à l'époque en pleine ascension, en 76, il y a Ian Michael Vincent, qui à l'époque est la star montante aux États-Unis. Vous savez que j'aime bien cet acteur, qui malheureusement va avoir une suite de carrière assez tragique, rattrapée par ses différentes dépendances. Il y a Kris Kristofferson qui joue le frère de Ian Michael Vincent. Alors lui, on ne le présente plus. Et puis, il y a la belle Victoria Principal, que on connaît tous pour avoir été la femme de Patrick Duffy, l'homme de l'Atlantide, dans la série Dallas. Voilà. Une très, très jolie brune. Et là, on est dans une petite ville de Californie, et Ian Michael Vincent, il en a marre en fait, parce que lui, il aimerait bien vivre sa petite vie à la cool, et puis il tombe sur un braquage, il voit des types flinguer les flics, et il se dit non, ça peut plus durer, il va voir ses copains flics, et il leur dit bon, écoutez les gars, j'ai peut-être une solution. Mon frangin, qui est mécano, mais qui est aussi un sacré bagarreur, il est rentré du Vietnam, c'est Kris Kristofferson, et je vais vous proposer de le contacter, puis on va voir si on peut louer ses services avec ses potes. En gros, avoir recours à une milice privée
pour, d'où le titre français, pour pouvoir assurer la sécurité dans la ville. Et je précise que Victoria Principal, c'est la femme de Ian Michael Vincent, pour que vous soyez bien au courant de tous les éléments de casting que je vous ai annoncés au début de ma chronique. Voilà, je fais des trucs incroyables avec des allers-retours, passé, présent, futur. Et là où le film est étonnant, c'est un film qui, je pense, tient à cœur à Armitage, parce que c'est lui qui écrit le scénar. Et le film est étonnant parce qu'en fait, ce qui va se passer, et c'est là que le film a un plus par rapport à d'autres films sur l'autodéfense, à d'autres films de Vigilante, c'est que cette équipe menée par Kris Kristofferson, en fait, va se révéler être une véritable hérésie pour cette ville. Et de justiciers, ils vont devenir, en fait, des personnages qui vont terroriser la ville. Et tout ça va, se terminer dans un affrontement fratricide. Pour un film, ma foi, plutôt efficace, très intéressant, qui est, en 76, c'est un film aussi au moment du Nouvel Hollywood, un film donc avec un propos politique intéressant. On parle de la guerre du Vietnam, là, quand même, où on voit un type, Kris Kristofferson, qui était un type, certainement un type bien avant la guerre du Vietnam, mais qui est devenu quelqu'un d'autre à la guerre du Vietnam. Donc, on parle aussi de ce syndrome post-guerre. Non, c'est vraiment intéressant. Alors, ça reste une série B sympathique, avec des bonnes scènes de bagarre, bien filmées, parce que la mise en scène est assez dynamique, le découpage est très bon, et puis c'est assez sec. C'est sans fioritures. Et donc, ça donne un film assez efficace, une très bonne série B, avec un propos politique assez intéressant, puisqu'on voit bien que les valeurs de l'Amérique sont questionnées, puisque justement, ces vigilantes vont se révéler être pires que les truands qui pourchassent, quoi. Du coup, ça, c'est un propos très, très intéressant dans le domaine du film de Vigilante. Alors, ça s'appelle Vigilante Force, donc c'est de George Armitage, et c'est disponible chez BQHL. Écoutez Culture Prouille. Dans ce studio, il y a un garçon qui est mystique. Il ne fait pas que se transformer en loup-garou, il a aussi des côtés très mystiques. Je veux bien sûr parler de notre ami Thomas Roland. Et c'est donc normal que je lui passe la parole pour parler de Les Envoûtés de John Schlesinger, qui est également sorti chez BQHL et qui est un film à la lisière du fantastique, d'ailleurs, qui est un thriller qu'on peut qualifier de thriller surnaturel par instant. Mon cher Thomas, peux-tu nous en dire plus sur Ces Envoûtés ? As-tu été envoûté par le film de John Schlesinger ?
Pour moi, c'est un film fantastique, hein, là, parfois même plutôt à la frontière de l'horreur dans certaines scènes. Donc John Schlesinger, on le connaît pour Marathon Man, mais avant il avait fait d'autres films plus dramatiques. Et donc il s'est voué au thriller, au policier à partir de Marathon Man et des Envoûtés. Donc Les Envoûtés, ça raconte quoi ? C'est Martin Sheen qui incarne un psychologue qui travaille pour la police. Et un matin, sa femme est électrocutée par une machine à café. Alors, il n'y a rien de fantastique là-dedans, c'est juste qu'ils avaient renversé du lait. Enfin bref, elle a un accident domestique, elle meurt. Et il déménage à New York avec son fils, où on le fait enquêter sur un policier qui apparemment est devenu dingue. Un policier qui a enquêté sur des disparitions d'enfants, suivies de meurtres rituels qui semblent devenir dingues. Et donc, il est persuadé d'avoir été envoûté par des membres d'une secte qui s'appelle la Brugeria. C'est le versant sombre de la Santeria, une religion importée des Antilles, voire d'Afrique de l'Ouest. Une sorte de pendant du vaudou. Et donc, il va se retrouver embringué dans cette histoire. Et finalement, ce policier n'est peut-être pas si fou que ça. Il va le mettre sur la piste d'une association, puis d'une secte qui, justement, enlève des enfants dans le meurtre, dans le but de meurtre rituel. C'est un film qui, encore aujourd'hui, fait écho à l'actualité parce que finalement, de quoi on parle ? On parle de réseaux de gens riches qui enlèvent des enfants. Bon, là, c'est pour des meurtres rituels, mais on peut mettre ça en parallèle avec des réseaux pédophiles, etc., comme parfois ça peut faire l'actualité. Je trouve que c'est un très bon film, un excellent film de John Schlesinger. Je trouve qu'il y a tout un... la façon dont il met en scène justement ces rituels, je trouve que c'est très bien documenté. Apparemment, Schlesinger s'était documenté à l'époque. Je trouve que c'est très bien documenté. D'ailleurs, apparemment, à l'époque, il dit qu'à New York, il y avait énormément de gens qui pratiquaient la santeria. Je trouve que c'est un très bon thriller, avec un très bon suspense. Martin Sheen qui incarne un personnage qui, on ne sait pas bien s'il est agnostique ou athée, parce qu'il semble rejeter en bloc toute forme de croyance ou de rituel. Mais il y a cette séquence avec ce flic incarné par Robert Loggia, hein, qui est un acteur avec une gueule, quoi, où il récite une prière. Je ne vais pas spoiler la séquence parce qu'elle est quand même importante. Donc, on ne sait pas vraiment si le personnage il est athée ou agnostique et s'il va finalement verser du côté sombre, parce qu'en fait, finalement, il est peut-être manipulé. Mais bon, je vais pas en dire trop non plus parce que ça serait déflorer un peu trop de l'intrigue et des différents personnages du film. Mais en tout cas, Les Envoûtés, pour moi, c'est un petit classique du cinéma fantastique. Enfin, je continue de dire que c'est un film fantastique. Voilà. Et avec un film qui parle aussi de la frontière entre le bien et le mal aussi, parce qu'il y a une fin, bien sûr, évidemment, qui reste un peu ouverte.
Ouais, moi je dirais que c'est un thriller à la limite du fantastique, mais c'est normal qu'il y ait débat parce que de toute façon, en fin de compte, au scénar il y a Mark Frost, et Mark Frost c'est l'homme qui crée Twin Peaks, hein. En fait on l'oublie assez souvent. Twin Peaks c'est pas que David Lynch, c'est aussi Mark Frost, c'est lui qui écrit quand même Twin Peaks. Et la Santeria qu'on retrouve hein, d'ailleurs dans l'excellent Perdita Durango d'Alex de la Iglesia, qui est en fin de compte assez peu traité au cinéma, c'est vrai, c'est quelque chose d'assez rarement traité, et qui est ce film là moi je l'aime bien. Alors, t'as pas dit, il est connu pour Marathon Man, il a aussi fait Macadam Cowboy, Schlesinger, qui est quand même aussi un film qui a marqué l'histoire du cinéma avec John Voight et Dustin Hoffman, hein, qui a eu plein d'Oscars, tout ça, enfin bref. Puis qui est vraiment marquant, même à la revoyure aujourd'hui, très dur. Et moi, je suis d'accord, le film est un peu sous-estimé, moi, je trouve Les Envoûtés, je trouve que c'est un excellent thriller, très angoissant. Et ce que j'aime bien, en fait, dans les propos du film, c'est là qu'on voit que c'est un sacré metteur en scène. Au début, il s'autocite d'ailleurs, hein, le début peut faire penser à Marathon Man, hein. C'est une autocitation. Mais ce que j'aime bien, si on remarque bien, parce que moi c'est plusieurs fois que je vois ce film, c'est qu'il s'amuse par exemple à filmer les mêmes décors avec beaucoup de monde et vide, et ça revient plusieurs fois dans le film. Et en fait le propos de Schlesinger, c'est qu'il y a deux mondes, il y a différentes perceptions de la réalité. D'ailleurs le personnage principal est psychologue, donc il s'intéresse aux différentes perceptions de la réalité, et avec ce flic latino là qu'il va rencontrer à un moment, qui est un personnage important dans le film, super acteur d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, qui jouait dans Dexter,
Jimmy Smith,
voilà, très très bon acteur, et il va se rendre compte lui qu'il y a plusieurs réalités qui cohabitent. Et ce qui est assez rare en fait, c'est que c'est un film qui traite de la mystique états-unienne. C'est-à-dire qu'on est aux États-Unis et en fait, il nous dit qu'il y a deux mondes. Il y a le monde concret qu'on connaît, mais en fait, il y a un monde mystique aussi aux États-Unis qui est très fort, qui est très présent, qui est vraiment là. Et moi, j'adore ça. J'adore cet aspect du film. Et je trouve que... D'ailleurs, je tiens à dire que dans les bonus, il y a un intervenant qui décortique très, très bien le film, qui ne se contente pas de re-réciter le film comme on a souvent dans des bonus DVD Blu-ray. Lui, qui va vraiment au cœur de l'intrigue, de ce qui est sous-tendu dans le film et tout ça. Bon, je trouve ça très, très intéressant. Donc... Puis tu n'as pas dit, il y a aussi la menace sur le fils. Le fils est menacé, il n'a plus que son fils. Donc, j'en dis pas plus, hein, mais du coup, ça induit un suspense supplémentaire et une paranoïa très très forte dans le film. C'est un film aussi très paranoïaque. Voilà, donc on est pour moi dans un excellent thriller. À la limite du fantastique, je suis d'accord, hein, qu'on peut voir comme fantastique aussi. Le dernier film dont on parlera dans l'émission aujourd'hui, et aussi, on pourrait aussi être tenté de le classer quelque part dans le fantastique. Alors, ça s'appelle Les Envoûtés, c'est un film de John Schlesinger, c'est sorti chez BQHL et on vous le conseille vivement. Je vais quitter BQHL pour aller chez nos amis d'Artus Film, qui nous sortent un film de 79 de Damiano Damiani, un réalisateur qu'on aime beaucoup hein, dans l'émission, qui s'appelle Un homme à genoux. un film que je ne connais. Eh oui, un film italien que j'avais pas vu, les gars. Ça arrive, hein, des fois. Et celui-là, je l'avais pas vu. Je l'ai découvert. J'ai pris une claque. Alors, ça s'appelle Un homme à genoux. Ça a un sens, hein, dans le film. Mais vous le verrez en regardant le film parce que vous allez être obligé de voir ce film qui est un super film. Voilà. Alors, j'ai ses limites comme critique. Un super film. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est l'histoire de Nino qui est joué par Giuliano Gemma, cet excellent acteur, ex-cascadeur devenu acteur très charismatique, avec un visage très angélique, hein, qui a toujours gardé un visage de genou durant toute sa carrière. Il a fait un peu de tôle. Il était voleur de voiture, en fait, et il a accumulé de l'argent pour pouvoir se payer son rêve. Hein, c'est-à-dire, dans la ville de Palerme, un petit kiosque dans lequel il vend des cafés, des jus de fruits pressés, tout ça. Et qui fait que, malgré tout, il a un rôle sociétal important dans cette ville. Il n'est plus un truand, il est devenu le Nino, le type avec le, comment dire, avec ce kiosque. D'ailleurs, il travaille avec un, c'est pareil, un vieux roublard, un ancien détenu... et qui sait tout, surtout dans la ville et tout, une sorte de Diogène de, la, qui, de cette ville de Palerme. Et, mais il est vraiment rangé. Hein, et il vit avec une femme sublime, hein, Eleonora Giorgi, qui a un vrai visage de Madone, donc, et qui rajoute un aspect très singulier au film. Et un jour, il découvre qu'il y a un tueur à gages qui rôde dans le quartier où il est. Et que ce tueur à gages, il a une liste de 8 personnes à tuer. Et visiblement, lui en ferait partie. Ce tueur à gages qui est campé par Michele Placido. Alors, c'est assez cocasse, d'ailleurs, ce Michele Placido, futur réalisateur de La Mafia, futur réalisateur de Romanzo Criminal, réalisateur très, très intéressant. Et j'adore Un homme à genoux, parce que alors là, pour moi, c'est dans les films de Damiani que j'ai vus, avec El Chuncho, c'est son meilleur film. Voilà, c'est un film très étonnant. Il y a une élégance dans la mise en scène, avec des travelling latéraux, de la caméra portée, c'est très moderne en fait, qui donne presque un aspect documentaire au film. Dès le début, on est plongé dans une ambiance où on a l'impression d'être dans Palerme, mais un Palerme qui est très gris, un Palerme qui est très très effrayant. Et surtout, ce que j'adore dans ce film, le scénario est génial en fait, c'est le côté kafkaïen du film. C'est un film complètement kafkaïen qui montre la machine à broyer qu'est la mafia. Et comment la mafia contamine toutes les couches de la société. Parce que même ce tueur à gages, c'est aussi un pauvre type. Et en fait, ça va décrire comment cet homme, debout, parce que Giuliano Gemma, c'est un sacré bonhomme, il a un sacré tempérament, va se retrouver à genoux. En fait, mis à genoux par la mafia. Et c'est un film, comment dire, d'une intelligence assez rare, en fait. Avec un final glaçant, hein, qui achève le spectateur, hein, qui démontre d'ailleurs que la mafia, c'est pas glamour. Il n'y a que les Américains pour avoir fait des films glamour sur la mafia. Parce que les Italiens, eux, ne font pas de films glamour sur la mafia. Hein, et ça rigole pas du tout. Et ce que ça démontre, et ce qui est passionnant dans le film, c'est cette sorte d'absurdité de ce système géré par la mafia. Ce type, au début, il est sur la liste. Pourquoi, comment, il ne sait pas. Il va découvrir pourquoi. Mais même là, c'est absurde. Pourquoi on le pourchasse? Pourquoi on veut le tuer? Il va devoir faire des marchés, des transactions pour éviter d'être tué. C'est un système absurde sans fin, où on ne cesse de se mordre la queue. C'est un cercle vicieux qui ne cesse de s'accentuer pour ce personnage. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est vraiment un très grand film sur la mafia. C'est un film complètement méconnu. Et surtout, ce que j'adore, c'est cet aspect kafkaïen, quoi. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, parce que bon, bah, Damiani, c'est aussi du cinéma populaire. Et là, je trouve que le scénario est d'une intelligence rare. Donc, je vous conseille... Enfin, je vous ordonne de voir Un homme à genoux de Damiano Damiani. C'est sorti chez Artus Film. C'est un excellent polar sur la mafia. C'est même un drame terrible. Voilà. La dernière partie de cette émission va être consacrée à un film qui sort chez Blackout, qui s'appelle donc Le Mangeur d'âme, de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Alors on les connaît bien, Maury Bustillo, hein, depuis à l'intérieur, ce sont des warriors du fantastique et de l'horreur à la française. Et là, ils s'attellent pour la première fois à, comment dire, un thriller. Alors c'est pareil, on peut dire qu'il est à la limite du fantastique, hein, mais ça reste un thriller quand même. Pour ce qui est, pour moi en tout cas, l'un de leurs meilleurs films avec Livid, si ce n'est peut-être leur meilleur film, le plus abouti, le plus maîtrisé, Le Mangeur d'âme. Donc Le Mangeur d'âme, c'est inspiré d'un livre d'Alexis Lebsker qui est paru chez Michel Lafon. Alexis Lebsker, bon, il est connu parce que visiblement des amateurs de poker, c'est une des personnes les plus influentes dans le monde du poker. Mais c'est aussi un auteur de polar, de page-turner, avec des chapitres très courts comme ça, très addictif. Le Mangeur d'âme, c'est un livre très addictif. Et là, il y a des petites différences avec le livre, hein, dans le film, mais l'adaptation de ce polar donne donc un thriller où, en fait, on va avoir Virginie Ledoyen, qui est une enquêtrice de la ville qui se pointe à la campagne dans un tout petit village des Vosges où il y a eu un couple qui s'est entretué de manière très sauvage. Et parallèlement à ça, il y a des disparitions d'enfants. Et donc, il y a Paul Amy, hein, qu'on avait tous beaucoup apprécié dans Fury d'Olivier Abou, qui vient, qui débarque, lui aussi, qui est un enquêteur, lui, de la gendarmerie, qui débarque pour enquêter sur ces disparitions d'enfants. Donc, évidemment, Buddy Movie, ils vont devoir collaborer. Ils ont tous les deux des plaies, des mystères qu'on va découvrir au fur et à mesure du film. Et ils vont enquêter dans ce village, quasiment ce village fantôme, hein, où il n'y a jamais personne dans les rues. Et ils vont se retrouver confrontés à ce que les enfants appellent le mangeur d'âme, hein, qui serait à l'origine donc de ces disparitions, mais aussi de ces meurtres terribles, de ces suicides mystérieux qui endeuillent la ville. Et on va se retrouver, ce septième film de Maury et Bustillo, avec un film qui, pour moi, qui a été un peu vendu comme une ressucée des Rivières pourpres. Moi, je trouve ça bien meilleur que les Rivières pourpres, et qui est un film pour moi très très glauque, très sombre, qui est un des meilleurs thrillers français de ces dernières années. Faut vous dire que il y a pas beaucoup de concurrence, hein, et malgré peut-être à la fin des petits raccourcis, des choses comme ça, mais le film reste pour moi très impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce film, les amis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais avant qu'on en discute avec le producteur Fabrice Lambeau, je trouve que moi, c'est un film qui m'a profondément marqué.
Je dirais que c'est du Chabrol, mais en version gore. Ça rejoint un peu, ça fait un peu écho au film dont on vient de parler, là, Les Envoûtés de Schlesinger. Ça commence comme un film fantastique. Enfin, pour moi, ça se rattache d'abord au cinéma fantastique. Et ça parle aussi d'exploitation, de trafic d'enfants, etc. Et effectivement, le film est très noir, très sombre. Parce qu'autant Les Envoûtés, il y a un petit côté, c'est le glamour hollywoodien quelque part. Il y a un vernis qui est là, même si le film est assez sombre. Mais là, on est encore plus. C'est vraiment beaucoup plus sombre. Moi, je trouve que le film, il a un gros défaut, c'est qu'ils ont un peu tendance à s'attarder sur des plans gore, etc., qui, à mon avis, n'apportent rien au récit, n'apportent rien à l'avance, de l'enquête, de la narration. Je trouve qu'ils ont des plans complètement gratuits. Après, effectivement, la fin, la résolution était un petit peu mal amené, mais je trouve qu'effectivement c'est assez maîtrisé quand même dans le reste du film. Ils arrivent à planter une ambiance, une atmosphère assez glauque, avec ce côté où cette petite ville où les gens ne veulent pas parler, alors qu'il y a des choses qui se savent forcément, ils se taisent. Donc oui, pour moi c'est du Chabrol, mais en version un peu plus gore, un peu plus fantastique, etc.
Je suis d'accord avec vous deux, c'est un très bon polar. Je suis d'autant plus d'accord avec toi, Jérôme, quand tu dis que c'est le meilleur film. Alors, pour moi, c'est le meilleur film que Bustillo et Maury aient fait. Il est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus tenu, même vers la fin, où légèrement, c'est un tout petit peu précipité. Ils vont jusqu'au bout. Au niveau de la violence, on retrouve un peu leurs pattes, en fait, parce qu'ils sont doués pour montrer la violence, notamment les scènes de meurtre ou même le choc moto qui est extrêmement violent. Ce que j'aime bien, c'est le village en soi, parce que comme tu as dit, Thomas, les villageois, ils parlent pas beaucoup. C'est un peu tous des connards généralisés. Que ce soit les villageois et les policiers, ils se parlent tous mal la première fois qu'ils se rencontrent. Ça, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux. Et je trouve qu'en fait, avoir ce village finalement entouré de montagnes quasiment désertes, ça fait quasiment un film de secte. Parce qu'on va retrouver justement ce côté où personne ne parle. Tout le monde sait quelque chose, mais personne ne veut le mettre en avant. Et c'est renforcé par le fait qu'on touche quasiment du folklore français avec ce mangeur d'armes qui vivrait dans les collines, qui s'en prendrait aux gens. Ça pose une ambiance quasi mystique, et c'est pour ça qu'on revient un peu sur le côté presque fantastique du film, mais c'est quelque chose qui est très appréciable d'avoir ce truc perdu au cœur du territoire français menaçant, sans parvenir à mettre le doigt dessus.
Vous l'aurez compris, les amis, on a beaucoup aimé Le Mangeur d'âme hein, de Bustillo et Maury, donc qui est disponible chez Blackout. Et ce qu'on vous propose, parce qu'il nous fait la gentillesse de venir dans ce studio, c'est d'en discuter avec l'un des patrons de Phase 4 Productions, Fabrice Lambeau, qui est producteur de ce film. Et donc tout de suite, Fabrice Lambeau au micro de Culture Prohibée. Nous sommes en compagnie de Fabrice Lambeau, donc de Phase 4 Productions, et nous allons revenir donc avec Fabrice. Alors tout d'abord, bonjour Fabrice.
Bonjour.
Nous allons revenir avec Fabrice sur le film qui nous a beaucoup plu, le premier thriller, hein, même si on flirte un peu avec le fantastique, de Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui s'appelle Le Mangeur d'âme et qui est donc disponible chez Blackout. Peux-tu revenir, Fabrice, sur ton travail avec Alexandre Bustillo et Julien Maury, parce que c'est pas la première fois que tu travailles avec eux.
Ouais, tout à fait. En fait, j'avais produit leur troisième long métrage, Aux yeux des vivants. À l'époque, ma boîte s'appelait Metaluna. C'était en 2013, donc ça remonte déjà il y a bien longtemps. Donc c'était après À l'intérieur et après Livide. Et puis, entre-temps, on a retravaillé sur un ou deux autres projets qu'on n'a pas réussi à monter. Et puis en 2021, en fait, j'ai lu à sa sortie le roman d'Alexis Lebsker, Le Mangeur d'âme. J'ai pris aussitôt les droits et une fois que j'ai lu, je l'ai proposé à Julien Alexandre pour le réaliser. Ils ont lu le roman, ils n'étaient pas hyper convaincu, surtout Alexandre. Et puis en fait, j'ai engagé deux jeunes scénaristes, Anne-Lise Batrel et Ludovic Lefebvre, que je connaissais déjà. Et eux ont écrit une V1 et une V2 du scénario. Et la lecture de la V2 du scénario, Julien et Alex ont changé d'avis et ont adoré, et donc étaient partants pour réaliser le film.
Il y a eu des changements hein, par rapport au livre. Alors, je précise que le livre Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker est disponible chez Michel Lafon. C'est un livre que tu m'avais fait découvrir d'ailleurs. Hein, et j'étais resté accroché au bouquin. C'est un peu une sorte de page-turner à la française. Hein, ça se lit très très bien. Bon, c'est glauque, hein, mais ça se lit, ça se lâche pas. Et dans le scénario d'Anis Batrel donc, et Ludovic Lefebvre, il y a eu des choix qui ont été faits, et en particulier, il y a eu quelques modifs, mais la modif pour moi la plus importante, et qui est la bienvenue, c'est de modifier le duo d'enquêteurs, c'est-à-dire de transformer le vieux flic bougon et la jeune fliquette en une policière de la ville et un capitaine de gendarmerie un peu mystérieux, quoi.
Ouais, alors, en fait, donc, eux ont écrit les deux premières versions du scénario, et ensuite, c'est Julien et Alex qui ont repris derrière, qui ont fait la V3 et la V4, enfin, avec Anne-Lise et avec Ludovic. L'idée, c'était vraiment effectivement de retravailler les personnages pour les rendre plus cinématographiques. Comme tu dis, c'est effectivement un page-turner. Voilà, c'est un peu la spécialité d'Alexis Lepsker, de faire des chapitres très courts, ça bouge très vite, etc. Mais nous, on avait besoin d'installer notre couple de personnages et surtout de faire que le twist final puisse fonctionner, parce que c'est quand même un point important de l'histoire. Et pour ça, il fallait retravailler un peu, effectivement, les personnages. C'est aussi dû à l'apport de Virginie Ledoyen et de Paul Amy, qui ont aussi amené pas mal d'idées sur leurs personnages. On a coupé quelques petites séquences, d'ailleurs. C'était un peu plus développé, notamment sur le personnage de Virginie Ledoyen. On la voyait en train de faire de la méditation. Et puis, ça cassait un peu le rythme du film. Et donc, on a coupé. Et le film faisait déjà 1h50, donc...
Bah, tu l'as évoqué un peu, mais le casting est aussi assez extraordinaire. Alors, il y a donc Virginie Ledoyen et Paul Amy. Alors, Paul Amy qu'on avait un peu tous, enfin, qu'on connaissait, mais qu'on avait un peu redécouvert avec Fury d'Olivier Habouc, où il est sensationnel, hein, voilà. Mmh. Et le reste du casting est quand même assez énorme. Enfin, il y a Sandrine Bonner, on ne dira pas quelle importance elle a dans l'histoire. Il y a Malik Zidi, qui est un acteur...
Que j'adore,
un acteur de second rôle en France, et que c'est un acteur que je trouve super, et d'ailleurs il est excellent dans le film. Il y a les fidèles, il y a la belle Chloé Coulou, il y a l'imposant Francis Renaud, voilà, les fidèles de chez Fidèles. Il y a Emmanuel Bonamy aussi, le très sympathique Emmanuel Bonamy, qui joue toujours des gros cons, on peut dire comme ça, au cinéma, alors que c'est un type adorable. Ouais. Donc ce casting-là, ça donne un peu un aspect famille aussi au film. C'est-à-dire que c'est des castings qui étaient Meta Luna, et puis qui sont Phase 4, puis qui sont aussi Maury Bustillo. C'est
une bande d'amis, quoi. Ouais, exactement. C'était important pour nous. Voilà, Julien Alex tenait à avoir Chloé présent dans le film. Moi, je tenais beaucoup à avoir Francis aussi. Bon, il était évidemment dans Aux yeux des vivants. Et d'ailleurs, Francis, il joue aussi dans Gibier. Et je pense que c'est son meilleur rôle à ce jour. Donc, notre nouveau film qui est en post-production. Et le cast était très chouette. Sandrine Bonner, elle avait super envie de faire un film de genre. Voilà, elle s'était bien renseignée auprès de sa fille qui est psy, justement, sur comment appréhender son rôle au mieux. Et Virginie a été super. Elle est très gentille. Elle était vraiment cool. Et Paul Amy, moi... En fait, au début, alors pour tout dire, moi je voulais, avant même qu'il y ait Julien Alex, je voulais Melville Poupeau. Ça durait très longtemps et finalement, il a décliné. Et ensuite, on avait fait une shortlist et moi j'étais resté sur Fury de Olivier Habou, Paul Amy, que j'avais trouvé vraiment magnétique dedans. Et Julien Alex était aussi partant, mais on voulait vraiment le rencontrer, donc on a fait une rencontre à Paris. Avec Paul, et en fait, ça s'est hyper bien passé. C'est là qu'on a dit. C'est un chien fou, hein. Il est très très marrant parce qu'il a un petit moment un peu lunaire. Il est adorable et très très impliqué dans son rôle.
Et le film est aussi doté d'une très très belle photo. C'est Simon Roca, je crois, qui fait la photo. Le film a vraiment une atmosphère particulière avec des différences de teintes et puis le côté aussi bleuté qu'on retrouvait un peu aussi dans Aux yeux des vivants. D'ailleurs, on en parlera après aussi pour les décors. Mais comment s'est passé le travail des réalisateurs avec Simon Roca? Parce que je suppose qu'il y a eu d'intenses repérages, parce que c'est un petit budget quand même malgré tout.
Le film, on l'a fait avec 3 300 000 euros. Donc, si on avait eu 200 000 de plus, on aurait été vraiment très bien, mais ça va, c'était pas ridicule non plus, c'était plutôt pas mal pour un film de genre. Et donc on a fait beaucoup de repérages. Moi j'avais fait déjà des premiers repérages avec Anne-Lise et Ludovic pendant l'écriture. On est allé écrire sur place dans les Vosges. On a eu très vite le soutien de la région, d'ailleurs ça c'était vraiment très bien, de la région Grand Est, avec leur nouveau système de financement, d'aide au financement pour les films de genre. Et ensuite Simon, il avait été le chef-op de Candicha. Julien Alex tenait à retravailler avec lui. C'est quelqu'un de hyper gentil, vraiment adorable, très impliqué aussi, donc on a fait effectivement pas mal de repérages. Et après, ils ont une idée que moi je trouvais vraiment cool par rapport au bouquin. C'est pas marqué significativement dans le film, mais quand on y prête attention, on voit il y a jamais personne en fait dans la ville. Ce qui nous a réduit, on a eu très peu de figurations, ce qui était plutôt pas mal, mais les rues sont tout le temps vides, enfin voilà, c'est une... La maire de la ville le dit à un moment, que la ville est en déliquescence parce qu'il y a une autoroute qui est passée à côté et qui fait que maintenant les gens, les voitures passent plus dans la ville, qu'il n'y a plus de circulation. Et c'est vraiment comme ça à Plombières. Hein. Enfin, c'est une ville vraiment sinistrée. Il ne reste plus que 1500 habitants alors qu'il y en avait 15 000 au début du 20e siècle. Quoi. C'était une station thermale, etc. Et là, c'est une ville mais fantôme, quoi.
C'est justement ce que j'allais dire. Il y a l'aspect ville fantôme qu'on avait aussi dans Aux yeux des vivants, même si ça avait été tourné dans les pays de l'Est. Là, on est sur du décor réel. Je pense que ça confère un cachet au film qui est assez unique. Or, c'est tourné dans les Vosges, terre de fantastique, puisque c'est là où il y a le festival du film fantastique international de Gérard Armé. Et vous avez pu utiliser, là, toute l'équipe, des lieux quand même assez atypiques. Je pense, tu parlais de thermes à l'instant. Il y a un endroit au niveau du col de la Chloute qui a été filmé aussi, qui est très particulier. Les endroits, en fin de compte, alors je ne sais pas quel est le travail de l'équipe de décorateurs et tout ça, mais c'est assez glauque quand même. Enfin, ça file les jetons.
Ouais, alors on a tourné partout dans les Vosges. On a fait un super boulot, d'ailleurs grâce à la région, de repérage. On avait un repéreur pour le film. Enfin voilà, on avait vraiment une équipe au niveau de la région qui nous a beaucoup aidés. Et on a sillonné pendant le tournage. C'est ce qui était un peu compliqué d'ailleurs, c'est qu'on a bougé tout le temps, quoi. On a tourné à Gérard Armé, à Saunier, Senone, Plombières. Enfin voilà, on a fait un peu toute la région. Et on a trouvé des décors assez dingues. Après, il y a Marc Thiebaud, notre chef décorateur, on en parlera après, qui a fait un boulot assez incroyable aussi. Mais on a trouvé un décor complètement fou, l'Altenberg, qui est un ancien sanatorium abandonné. Ça a été très, très compliqué. Deux fois, on a pensé qu'on ne pouvait pas avoir le décor, parce qu'il y avait... C'était très très compliqué de retrouver les propriétaires. Enfin voilà, pareil, la gendarmerie qui nous a beaucoup aidés. C'était assez. Mais voilà, on tenait tellement à ce décor, on était super contents de l'avoir.
Mais justement, tu parlais à l'instant du chef déco. Justement, quel a été son apport? Parce que, alors, on ne peut pas révéler l'intrigue du film, mais c'est vrai que dans la partie finale du film, le décor est particulièrement malaisant, quoi. C'est assez singulier, quoi.
C'est la magie du cinéma, c'est qu'en fait, c'est tourné à deux endroits, mais complètement différents, qui n'ont rien à voir. Donc, tous les extérieurs, c'est tourné effectivement à l'Altenberg. Quelques intérieurs aussi, il y a une piscine abandonnée qu'on voit à un moment, etc. Mais après, tous les intérieurs très malaisants, comme tu dis, à la fin, sont tournés à 30 km de là, dans les sous-sols d'un hôpital pas abandonné, mais qui n'est plus utilisé. Voilà, c'est la magie du cinéma, on met tout ensemble et après on pense qu'on est au même endroit. Voilà.
Thank you.
Vous écoutez Fabrice Lambeau, producteur de Le Mangeur d'âme, au micro de Culture Prohibée. Le film est très, très ancré aussi dans un réel hexagonal. Moi, ça, j'aime beaucoup parce que ça me fatigue. Enfin, je pense que maintenant, les réalisateurs français, ils n'essayent plus de faire des films à l'américaine. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on a un des meilleurs cinémas fantastiques. On en avait parlé dans l'émission. En termes de production mondiale, je pense que les Français, aujourd'hui, sont très bons parce qu'ils s'ancrent justement dans leur propre réalité. Ce qu'avait déjà fait, d'ailleurs, Maury et Bustillo, avec Livide, par exemple, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et comment tu vois ça, toi, parce que tu es un vieux routier du fantastique français. Ouais. Comment tu vois cette propension de plus en plus à faire des films justement ancrés dans un réel français? C'est ça la voie à suivre, en fait, pour faire du bon fantastique en France?
Je pense que ça tient à un niveau de maturité d'une certaine génération, justement, même si certains continuent de faire des films très à l'américaine. Par exemple, Xavier Jeans reste dans un cinéma... pour le coup, très, très influencé. Julien Alex aussi, hein, ils absorbent beaucoup de références, mais là, on était... je pense qu'il y a une certaine prise de confiance, une certaine acceptation et surtout une envie de s'inspirer de notre histoire, de notre patrimoine, de notre société aujourd'hui. Enfin, encore une fois, dans Le Mangeur d'âme, c'est quand même assez marquant. Et... moi, cette idée de la ville, j'en avais parlé longtemps avec eux. Moi, c'est un truc personnel, c'est que donc ma famille est dans les Ardennes et je passais dans l'Aisne en voiture, une petite ville, je crois que ça s'appelait Braine, qu'on était obligé de traverser. Et un jour, ils ont mis une contournante, une quatre voies. Et depuis, on passe par cette quatre voies, évidemment. On traverse plus Braine, alors que des fois, on s'arrêtait à la boulangerie, machin, et la ville est en perdition complète, quoi. Et c'était un peu cette idée-là. Et quand on arrivait là-bas, dans les Vosges, mais c'était pareil. Il y a des endroits, des anciennes villes, encore une fois, des anciens thermes, etc., qui sont devenus mais tellement sinistrés. Et ça, on voulait s'en servir dans le film. Et le discours de la mère sur cet aspect-là, la ruralité, tout ça, c'était quelque chose effectivement qui nous tenait à cœur, quoi. Et puis sortir de Paris, enfin voilà. Là, on a un nouveau projet avec Julien Alex. Pour le coup, on est très... on est complètement dans l'histoire de France, la culture française, et voilà.
Bah, quand je parle aussi de réalité, de quelque chose d'ancré dans le réel, même si le film a son aspect onirique, c'est, voilà, avec des créatures un peu étranges qui apparaissent.
Ouais, au bord du fantastique.
Ouais, on est aux portes. On va avoir du fantastique, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup une scène, c'est une scène de poursuite, en fait, où Paul Amy poursuit, je vais pas dire qui, quelqu'un qui est masqué, hein. Et moi, j'adore dans cette scène parce qu'il y a un côté, on sent que les mecs sont fatigués. Alors, je sais pas comment elle a été tournée, mais c'est pas du tout une poursuite à l'américaine où les mecs sautent partout, courent comme des dingues et tout. Non, le sol est accidenté, il y a des rondins de bois, il y a un peu d'eau, on a du mal à se mouvoir. J'aime beaucoup cette scène.
On a fait beaucoup de prises. Paul et le cascadeur qui faisait l'autre personnage, etc., on passait beaucoup, beaucoup de temps à se préparer. On répétait, voilà, trouver les meilleurs axes caméra, etc. Donc on a fait beaucoup de prises, donc ils étaient effectivement fatigués. Et surtout, Paul, il voulait vraiment le faire lui-même. Ce qui était un peu... on n'était pas hyper rassurés, parce qu'effectivement, il escalade des montagnes de rondins de bois, etc. Et il n'est pas doublé, c'est lui qui a tout fait. Et donc, il est costaud, ça c'est sûr. Et il faisait énormément de sport tous les jours. Enfin voilà, il était hyper affûté. Donc voilà, non, ça s'est hyper bien passé. Mais on voulait effectivement que ça soit... qu'on sorte le côté organique des choses, quoi.
Et il y a aussi, moi, ce que j'aime bien dans le film, il y a plein de petites... plein de petites références disséminées de ci, de là. Il y a même au moins un motard masqué qui peut rappeler un peu le tueur de l'âme infernale de Dalamano, tout ça.
Complètement.
Voilà,
on
est là-dedans, voilà.
Ouais, un mini côté de giallo que moi j'adore. Et donc les plans sur le motard masqué, enfin voilà, ça, c'est hyper iconique d'un cinéma qu'on adore, quoi.
Et est-ce que, tu disais tout à l'heure que tu as d'autres projets avec Julien Maury, Alexandre Bustillo, est-ce que tu penses qu'il reviendrait vers le thriller? Parce qu'en fin de compte, moi je trouve que ce film, c'est un de mes films préférés dans ce qu'ils ont fait. Et je trouve très réussi.
Vraiment objectivement, et pas parce que je l'ai produit tout ça, mais moi je trouve que c'est leur film de la maturité, et je trouve que c'est leur film le plus abouti en tout cas. au niveau narratif, etc. Après, moi, j'aime vraiment bien The Deep House. En tout cas, toute la partie, enfin la partie technique du film est juste hallucinante. Je serais allé dans une autre direction que le côté horreur. J'aurais été plus dans un truc Lovecraftien, moi, dans Deep House, mais je trouve les films vraiment intéressants. Ouais, je pense que ouais, Le Mangeur d'âme, c'est pour moi leur film le plus abouti, en tout cas au niveau mise en scène, etc. Aussi parce que Julien et Alex sont très généreux dans l'écriture, ils débordent d'idées, etc. Et des fois, ça peut prendre un peu le pas sur le narratif en lui-même. C'était un peu ce qui est arrivé sur Aux yeux du vivant. Il y avait des séquences un peu casse-gueule parce que ce qui comptait pour eux, c'était de faire une séquence marquante plus que la logique du scénario, etc. Déjà dans les vidéos aussi, etc. Là, dans Le Mangeur d'âme, je pense que ça réunit les deux aspects. Est-ce qu'ils vont revenir vers le thriller? J'en sais rien. Là, on a un film sur le spiritisme. Donc, voilà.
Non, on est dans le fantastique. Alors, effectivement, je pense aussi que c'était certainement le film qui est le plus grand public, en fait, de Maury et Bustillo. C'est, puisqu'on l'a comparé au Rivière pourpre, par exemple, la critique l'a beaucoup comparé au Rivière pourpre de Kassovitz. Et ils ont aussi, parce que bon, ça fait des années qu'ils se battent avec des petits budgets. Bon, là, c'était peut-être d'ailleurs un de leurs plus gros budgets. Ils mériteraient peut-être aussi d'accéder à un stade encore supérieur, je pense, Maury Bustillo. Parce que c'est vraiment, eux, c'est des warriors du fantastique français. Ils sont là depuis un moment aussi.
Ouais, et puis ils font pas de. Moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils font pas de compromis, etc. Enfin, encore une fois, on leur propose des films aux États-Unis. À l'époque, quand on tournait Le Mangeur d'âme, ils avaient une proposition pour un autre film. A priori, ça s'est pas fait. Enfin, ils lâchent rien. Et quand si ça va pas dans ce qu'eux veulent faire, ils le font pas, quoi. Encore une fois, ils font vraiment pas de compromis, même si c'est. Voilà. Et pour revenir sur le budget, je pense que c'était leur deuxième plus gros. Je crois qu'ils avaient un peu plus d'argent sur Deep House. Mais c'était à peu près dans les mêmes montants. Mais oui, c'est des petits budgets. Mais d'un autre côté, ils ont beaucoup de liberté. On allait vraiment dans le même sens. Moi, le but par rapport au roman, c'était justement d'aller un peu plus encore vers le fantastique, vers le surnaturel, etc. Ce qui a un peu peut-être aussi désarçonné le public lors de la sortie en salle, c'est qu'on avait une affiche qui était pure Blumhouse, quoi, qui faisait vraiment une affiche de film d'horreur. Le Mangeur d'âme, ça fait plus film fantastique, voire film d'horreur. Donc peut-être que le public des thrillers a été un peu désarçonné par ça. Et puis le film est quand même vachement glauque, quoi. Donc, mais ça, c'est leur truc aussi. Hein. Et on a coupé, une séquence vraiment bien, bien gore avec Sandrine Bonner. Faudra voir aller dans le Blu-ray, aller dans les bonus.
Oui, il y a pas mal de bonus. Il y a en particulier les scènes inédites, évidemment. Alors, on en profite. Hein, on a donc. L'un des fondateurs et boss de Phase 4 Productions. Donc, tu parlais tout à l'heure de projet. Est-ce que vous avez. Enfin, de quoi tu peux nous parler de ce qui va bientôt arriver sur nos écrans ou en galette et qui va ravir nos yeux. On en attend que ça. Voilà.
Bah donc, là, il y a La Chose derrière la porte qui vient de sortir en Blu-ray avec une tonne de suppléments. Donc, le film de Fabrice Blin, fantastique, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Un plus petit, beaucoup plus petit budget, mais vraiment, pour le coup, un film où il a mis tout son cœur et toute son énergie, et dont je suis vraiment content aussi. Et puis là, on est en post-production, on est en train de finir un film qui s'appelle Gibier, d'Abel Ferry. C'est un survival dont je suis hyper content. Je sais pas s'il marchera en salle et tout, mais c'est bien, bien vénère. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une vingtaine d'années qui vient retrouver son demi-frère. Elle est partie de chez elle, elle vient retrouver son demi-frère qui vit dans une ferme isolée dans la forêt avec d'autres jeunes éco-warriors. Et en fait, ils ont planqué des GoPro dans un abattoir pas très loin de où ils sont, où ils soupçonnent qu'il y a de la maltraitance animale et du trafic de viande impropre à la consommation. Et en fait, ils montent un commando la nuit pour aller récupérer les GoPro et ils se font choper par les mecs de l'abattoir et ça devient une chasse à l'homme. Ça vire à la traque de Serge Leroy un peu. Il se passe un événement qui fait que ça dérape complètement et ça devient un film de chasse à l'homme. Et j'en suis hyper content parce qu'en plus, on a un casting de fou. On a Olivier Gourmet, Francis Renaud évidemment, Kim Higelin, Rod Parado, Marie Kremer. J'étais hyper content de tourner avec Olivier Gourmet parce que c'est un de mes acteurs préférés. Et j'étais pas du tout déçu, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc là, on est en train de le finir, il sera fini, je pense, fin janvier. Et puis on a plusieurs films, on a pas mal de films en développement, donc le nouveau film de Marina Devan, Hurlement, qui est une adaptation d'un roman d'Alexis Lebsker aussi. On a le premier long métrage de Jean-Baptiste Toré, La solitude des armes, qui est un thriller aussi. Et on a un très gros film qu'on va tourner au Canada fin janvier avec un loup et un chien qui s'appelle Owl, qui est réalisé par Elias Merritt qui avait fait Shadow of the Vampire et Usual Suspect. Et on a Leonardo DiCaprio qui est prodigé sur le film. Et voilà, c'est de très loin notre plus gros film. C'est très compliqué, mais voilà, non, là, tout est lancé, on est en train de construire les décors, etc. Et après, on a d'autres projets, mais c'est encore trop tôt.
Eh bien, écoute, des films dont on reparlera très prochainement dans l'émission, on l'espère. On rappelle que Fabrice Lambeau, donc, est l'un des patrons de Phase 4 Productions, qu'il est le producteur du Mangeur d'âme de Julien Maury et Alexandre Bustillo, disponible chez Blackout. Merci, Fabrice, pour cet entretien. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.